Alors, sans transition, j'appelle les participants à la table ronde qui va suivre, donc Sophie Benon-Crabet, qui est l'animateur. J'en profite pour deux petits messages, à savoir celui qui consiste à dire que pendant la pause autour de Jean-Marie Jacquot, les membres de l'interrégion Sud vont se retrouver pour discuter un tout petit peu autour de lui. Et les animateurs des ateliers, avec le président de la FISAF et moi-même, on va se retrouver pour discuter un petit peu des ateliers d'hier. Voilà, c'était juste, donc c'est une pause écourtée pour ces personnes, mais c'est pour le bénéfice du déroulement du congrès. Sophie, à toi.
Excusez-moi pour la voix, hein, vraiment, je suis désolée. Pour cette table ronde, donc, nous allons appeler Danielle Favreau, qui est la directrice du service de la promotion professionnelle des sourds et directrice depuis 11 ans du pôle régional Aquitaine pour les déficients sensoriels. Monsieur Thierry Napoli, qui est chef de service partenariat de la direction régionale du pôle emploi PACA. Monsieur Jean-François de Caffarelli, directeur du FIPHFP. Et Monsieur Allard, donc, qui est chef d'entreprise et qui notamment s'occupe de Tadeo, qui assure aujourd'hui, dont ses équipes plutôt, assure aujourd'hui la transcription et la vélotypie. Donc pour cette table ronde qui est consacrée à l'accès à l'emploi et la vie au travail des travailleurs handicapés, je voudrais d'abord commencer par vous présenter des chiffres qui ont été évoqués hier par le président Bonnet en introduction. C'est la demande d'emploi des personnes handicapées. On a 9,5% de personnes valides qui sont demandeurs d'emploi et 21% en revanche de travailleurs handicapés qui sont à la recherche d'un emploi. Donc on voit bien que l'accès à l'emploi est difficile. Pourtant, toutes les études qui ont été menées montrent que les personnes handicapées ont une réelle envie de travailler. 87% d'entre elles font état d'un besoin de travailler et d'une volonté d'accéder à un emploi. Et pourtant encore, trop souvent les entreprises font état de freins, crainte de l'absentéisme, moindre performance, peur de la lourdeur des aménagements que peuvent générer le handicap. Donc beaucoup de freins encore pour accéder à l'emploi. Et même ensuite, ça sera la seconde partie de notre table ronde, lorsque les personnes sont en emploi, eh bien là encore, on se rend compte que beaucoup de freins sont là. Les personnes accèdent 4 fois moins à la formation que les autres. Elles ont moins aussi de promotion professionnelle que les autres et elles sont sur un risque de licenciement accru et notamment on le voit en cette période de crise. On avait eu à un moment donné un effet inverse avec le programme de la GFIP qui avait permis de stabiliser les licenciements des travailleurs handicapés. Là, avec la reprise des difficultés, eh bien, on assiste au schéma qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire que les travailleurs handicapés sont les premiers à faire l'objet d'un licenciement dès lors qu'il y a une crise. Et on va voir que très vraisemblablement, s'il y a une reprise, ils seront malheureusement les derniers à en bénéficier. Donc encore beaucoup de travail là-dessus. Donc sur cette table ronde, on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions. On va traiter donc de l'accessibilité des moyens de compensation, de l'articulation droit commun, droit spécifique, des possibilités de financement qui sont laissées. Et on aura un regard un petit peu, j'allais dire décalé, mais dans le bon sens du terme, d'un chef d'entreprise qui va amener sa vision des choses en disant ben peut-être que les systèmes actuels ont vécu et qu'il faut réfléchir à de nouvelles dispositions. Donc je vais passer la parole à Danielle Favreau qui va vous défendez hein, plutôt l'idée que soutenir l'accès à l'emploi et la vie au travail, eh bien, ça nécessite une bonne accessibilité des lieux de travail et un droit à la compensation accru.
Merci. Bonjour. Oui, peut-être pour commencer, rappeler dans les grandes lignes le parcours d'un demandeur d'emploi handicapé. Donc, comme tout demandeur d'emploi, il est inscrit au Pôle emploi. Le Pôle emploi peut effectivement l'orienter vers un cap emploi, s'il juge effectivement que peut-être cette personne sera mieux accueillie, en tout cas son handicap sera mieux pris en compte dans un cap emploi. Et le cap emploi peut faire appel à des prestataires spécifiques spécialisés pour délivrer, on va dire, une expertise en matière, au vu de la déficience. Donc, je vais parler de celle que je connais la mieux, hein, qui est la déficience auditive, le handicap auditif, donc, puisque je dirige une de ces structures. Aujourd'hui, donc depuis 2007 que ce système est mis en place, quel est le retour des personnes sourdes que l'on peut avoir? D'abord, une grosse difficulté pour ces personnes à accéder à cette information et à comprendre ce parcours. C'est une des premières choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu, de notre part en tout cas, une grosse opération de communication en 2007 pour expliquer que les choses ne pouvaient plus se passer comme auparavant et qu'il fallait rentrer dans ce dispositif de droit commun, que ça faisait partie de l'intégration professionnelle, d'utiliser d'abord le droit commun avant d'utiliser des services spécifiques. Ils ne pouvaient plus se rendre aux services spécialisés pour tout simplement chercher un travail. Donc c'est un premier frein, cette compréhension de ce parcours. Après, aujourd'hui, le retour que l'on a de ces personnes, c'est peut-être le manque de réactivité ou le manque d'accessibilité. C'est-à-dire qu'une personne qui s'adresse au Pôle emploi ou au Cap emploi, une personne signante, comme quand même une majorité de la population sourde, sachant que la population dont je parle, je vais être plus précise, c'est quand même une population qui a un niveau 6, 5, 4 maximum. Les personnes, c'est vrai, les plus autonomes, peut-être ont moins de difficultés d'accès à l'information et comprennent mieux le dispositif et peuvent s'en saisir de façon plus correcte. Donc la population qui est un petit peu plus éloignée de l'emploi avec un niveau de qualification moins élevé donc s'adresse au Pôle emploi, s'adresse au Cap emploi et ne trouve pas de facilité de communication. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'avant d'avoir de comprendre un courrier effectivement de convocation, hein, déjà c'est un petit peu compliqué. Après de s'adresser, d'aller au rendez-vous du Pôle emploi par exemple, sans interprète, deuxième difficulté pour tout le monde d'ailleurs, hein, pas que pour la personne sourde, mais aussi pour le conseiller emploi qui reçoit cette personne. Donc là il y a une deuxième difficulté, donc un rendez-vous peut-être un peu qui avorte. Et de la même façon après le Cap emploi, même s'ils sont beaucoup plus sensibilisés au handicap, il est toujours compliqué quand même pour les Cap emploi de faire appel à un interprète en langue des signes parce qu'il faut le réserver à l'avance. Et ça c'est compliqué. Donc c'est vrai que les personnes nous disent, mais si je vois une offre d'emploi qui m'intéresse, que je veux y répondre, j'envoie un mail donc à mon référent Cap emploi. C'est très concret hein, ce que je dis. J'envoie un mail à mon référent Cap emploi, qui répond aussi vite que possible, qui va effectivement donc demander un interprète pour que le rendez-vous puisse se faire, et ça va prendre une semaine, 15 jours. Et on sait bien qu'en matière d'emploi, il faut être extrêmement réactif, que ça ne peut pas attendre une semaine, 15 jours. Il faut effectivement répondre très très vite. Si la personne décide de contacter directement l'entreprise, d'envoyer un mail, un SMS, la maîtrise du français est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué pour la population dont je parle. Et c'est vrai qu'ils ont tout à fait conscience que le mail qu'ils vont envoyer avec des phrases qui sont mal construites, qui ne sont pas en français tout à fait correct. Il y a une personne qui me disait la semaine dernière, je comprends, l'entreprise, elle a peur. Elle a peur. Si elle n'est pas elle-même sensibilisée au handicap, parce qu'elle ne sait pas qu'effectivement, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de compétences, ça ne veut pas dire qu'elle est plus bête qu'une autre, mais ça veut juste dire qu'il y a ce frein-là du français. Voilà. Donc, dans un premier lieu, tous ces freins, on va dire, heurtent l'accès à l'emploi. Et du coup, c'est vrai que la GFIP, en tout cas au niveau de l'Aquitaine, nous faisait remarquer qu'on a moins de PPS, on a moins de prescriptions. Voilà, en tout cas dans notre service, au niveau de l'Aquitaine, moins de prescriptions. Et donc on l'a fait remarquer. Pourtant, on communique énormément auprès du Pôle emploi, auprès des Cap emploi. Pourquoi est-ce qu'on a moins de prescriptions? Tout simplement parce qu'en fait, la population sourde, on ne sait pas où elle est. Les demandeurs d'emploi sourds, finalement, on ne sait pas où ils sont. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que ces personnes continuent à chercher du travail? C'est une vraie question aujourd'hui.
Donc là, par rapport au constat que vous faites, est-ce que vous avez des propositions, des pistes ou des exemples d'actions un petit peu, on va dire, phares ou exemplaires qui ont pu être menées sur ces sujets-là et qui permettent justement à la population sourde d'accéder plus facilement, d'une part, à l'information et ensuite de pouvoir réagir rapidement lorsqu'il y a une offre d'emploi ou de formation qui l'intéresse?
Je crois que peut-être il y a plusieurs niveaux. La semaine dernière, dans le cadre de la semaine du handicap, donc le Pôle emploi nous a demandé d'intervenir sur une action de sensibilisation de ses référents TH. Donc ça s'est fait, mais un petit groupe de personnes, c'était 12 personnes sur une journée pour tous les handicaps. Donc, c'est peut-être un petit peu juste, mais c'est vrai que je pense qu'un agent d'accueil du Pôle emploi ou du Cap emploi qui n'est pas suffisamment sensibilisé pour l'accueil, il ne s'agit pas d'être expert dans chaque handicap, mais je pense que c'est quand même vraiment une première mesure à mettre en place. Savoir qu'est-ce que ça veut dire une personne sourde, comment on l'accueille et quels seront ses besoins. Je pense que c'est peut-être déjà un premier point. Et d'ailleurs, c'est à la fin de la formation ce que les référents TH ont pu exprimer, qu'ils étaient effectivement contents d'avoir cette sensibilisation. Après, c'est vrai qu'en matière de réactivité, le français ne sera pas comme ça du jour au lendemain, enfin en tout cas la non maîtrise du français, un frein qu'il va être facile de lever. Ça, je ne pense pas. Donc soit effectivement il y a peut-être des professionnels du Pôle emploi ou des Cap emploi qui sont formés à la langue des signes, pourquoi pas, et qui peuvent réagir effectivement assez vite. On voit bien aussi quand même que les Cap emploi peut-être ne regarde pas la population sourde comme une population peut-être facile aussi à insérer. Est-ce que c'est un public prioritaire parmi leur public? Je n'en suis pas sûre. D'autre part, il faut aussi prendre en compte peut-être que la valeur travail pour la population sourde n'est pas forcément la même que la nôtre, que c'est une vraie volonté. Il faut avoir de la motivation quand même pour une personne sourde pour aller travailler, surtout qu'aujourd'hui c'est vrai que entre l'allocation adulte handicapé, la PCH, c'est vrai qu'on arrive à un niveau finalement d'allocation qui permet de vivre. Ça peut changer.
Oui, ça risque de changer très vite. Même.
Très vite même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne sourde, quand on voit la difficulté de ce parcours, alors qu'elle peut rester chez elle finalement en vivant pas trop mal, c'est vrai qu'il faut essayer de mettre en place et peut-être redonner au travail une valeur qui peut-être leur donne envie de se confronter à ce parcours un peu difficile.
Merci. Je vais passer la parole à Thierry. Je vais passer la parole à Thierry Napoli. Donc, je rappelle que vous êtes le chef de service partenariat de la direction régionale du Pôle emploi PACA. Peut-être pouvez-vous nous expliquer quel est donc ce service. Donc, vous allez sans doute dans vos propos compléter les propos de Madame Favereau avec plutôt le volet articulation droit spécifique et droit commun. Je vous laisse la parole.
Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, le service partenariat PACA est un service qui, l'objet principal, donc, c'est de l'ingénierie dans la mise en œuvre des partenariats régionaux ou locaux ou territoriaux. Donc, au niveau directement de mon service, on met en œuvre un certain nombre de partenariats qui relèvent du niveau régional Par exemple, bon, c'est l'occasion, la circonstance, donc le partenariat avec les Cap Emploi, donc qui est une convention régionale avec l'AGFIP, le FIP, la Direct et les Cap Emploi. Donc c'est bien le niveau régional qui met en œuvre, avec une déclinaison ensuite au niveau des territoires. Et donc ensuite nous accompagnons et nous sommes là donc en appui au montage donc des conventions, des partenariats, les territoires, donc les directeurs territoriaux ou les directeurs d'agence. Voilà. Donc nous apportons de la méthode, de l'outillage et puis aussi donc un certain nombre d'appuis en ce qui concerne les contacts. Bon, par exemple demain je suis avec le Conseil général des Bouches-du-Rhône et des collègues d'une agence de Marseille pour mettre en place un contrat de service qualité avec le Conseil général pour faciliter les recrutements. Voilà. Voilà un petit peu donc ce que nous faisons, je veux dire, au quotidien. Voilà. Alors oui, effectivement, je vais un peu rebondir sur les propos de Madame Favreau. Donc elle a souligné 2-3 points qui effectivement nous intéressent et nous concernent. Vous avez dit à un moment donné que vous avez travaillé avec les agents de Pôle emploi dont vous êtes intervenu. Ça fait partie donc justement des pistes que nous allons mettre en œuvre en 2012 au niveau de la région. Donc je suis en train d'y travailler avec les deux directrices, donc AGFIP et FIP. On va monter vraisemblablement une action. On a 70 conseillers référentés à Champaca. Et le problème, effectivement, est celui de l'expertise sur le volet du handicap. Bon, le conseiller de Pôle emploi, aujourd'hui, bon, vous imaginez un petit peu, je pense que les derniers chiffres du chômage vont encore rajouter à la situation, donc des portefeuilles qui sont remplis, beaucoup trop remplis, donc des difficultés, effectivement, pour suivre individuellement chaque demandeur. Pour autant, on a effectivement donc chez nous des publics handicapés. Donc en PACA, grosso modo, alors aujourd'hui, je pense que les chiffres, on va le voir très rapidement, vont certainement être à la hausse. On a à peu près 18 personnes inscrites à Pôle emploi qui sont reconnues travailleurs handicapés. On sait que ces chiffres-là ne sont pas vrais, puisqu'il y a effectivement un problème d'identification des personnes handicapées. Certains ne se signalent pas, donc on ne le sait pas. On espère, donc on a une expérimentation qui est conduite au niveau national et chez nous, donc nous avons le département des Hautes-Alpes qui est concerné, donc sur l'employabilité des personnes handicapées avec les MDPH. Et il est prévu dans le cadre de ce partenariat et de cette expérimentation que nous puissions nous connecter donc entre les systèmes d'information des MDPH et le nôtre au travers de ce qu'on appelle le dossier unique du demandeur d'emploi, le DUD, qui est un outil dont bénéficient déjà les Cap Emploi. Et on espère qu'on pourra effectivement mieux identifier les personnes. Bien. Ce qui veut dire que mécaniquement, on aura une augmentation. Donc 18 000 personnes aujourd'hui en PACA. La co-traitance Cap Emploi, donc c'est à peu près 6 000. Donc ce qui veut dire qu'il y en a 11 000, voire 12 000 chez nous. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est conseiller emploi, Pôle emploi, et qu'on a une personne handicapée. Donc si je mets de côté la personne qui effectivement est handicapée, mais qui a pas trop de freins à l'emploi et qui a une expérience, une qualification qui correspond, donc c'est appelé, mais il y en a un certain nombre, effectivement, où là, on a besoin de faire monter nos conseillers en expertise. Voilà. Alors, chez nous, en PACA, le travailleur handicapé inscrit, donc, si on fait un portrait un peu type, donc c'est plutôt un homme qui a entre 25 et 49 ans, qui est effectivement, vous le disiez, peu ou pas qualifié. 76% des personnes inscrites chez nous ont un niveau 5 ou infra. Donc, ce qui veut dire que des problèmes de qualification, de formation et de qualification, puisque lorsqu'une personne, si elle s'inscrit chez nous, qu'elle demande une reconnaissance de travailleur handicapé, très souvent, effectivement, le métier qu'elle recherche, elle n'a pas du tout ou très peu de qualification. Donc, ça augmente, c'est un frein supplémentaire au retour à l'emploi. Voilà. Et c'est vrai que dans le contexte de sélectivité du marché du travail qui ne fait que s'accroître, et ça ira certainement, je veux dire, ça va encore s'accroître avec les difficultés économiques que nous traversons, il faut qu'on trouve effectivement des solutions et que l'on puisse proposer une palette de services assez adaptée à ces personnes pour les aider dans leur recherche d'emploi. Alors aujourd'hui, la palette de services de Pôle emploi, elle est assez large. Hein. On a donc deux têtes à notre offre de services, les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc sur les demandeurs d'emploi, on a effectivement ce qu'on appelle des prestations qui sont assez nombreuses, qui s'adaptent en fonction du profil et du projet de la personne, notamment des ateliers, des prestations d'accompagnement, des prestations d'évaluation. Et puis, bien évidemment, lorsque ça se justifie, et c'est là où le Cap Emploi donc a sa plus-value, si le conseiller estime qu'il y a une vraie plus-value dans son projet d'être orienté vers le Cap Emploi, donc nous le faisons. Enfin, je rappelais tout à l'heure, donc 6 000 places pour 18 000 demandeurs, donc on voit que très vite donc on atteint nos objectifs, c'est le cas, donc chaque année les objectifs sont atteints, largement atteints, j'ai même envie de dire, avec nos partenaires Cap Emploi en région. Voilà. Alors, nous avons dans la palette de services aux demandeurs d'emploi une prestation plus particulière, dont je ne sais pas si beaucoup dans la salle la connaissent, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, ou une méthode de recrutement par analogie, qui est vraiment un outil que Pôle emploi a créé depuis 1995. Et depuis donc cette époque, nous avons reclassé à peu près 230 000 personnes. Donc l'intérêt de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui permet pour les employeurs de recruter autrement. Quand je dis autrement, c'est que le modèle classique de recrutement aujourd'hui, c'est le CV, la lettre de candidature, etc. Et on sait très bien qu'à partir du moment où il y a des frais à l'emploi, vous en avez cité quelques-uns, ces personnes-là ne dépassent jamais le cap et n'arrivent jamais à un entretien. Donc là, l'idée, c'est de bâtir avec les employeurs qui sont prêts donc à travailler avec nous sur le sujet, de travailler à partir donc des situations véritables donc sur le poste de travail, d'identifier les tâches principales donc sur le poste de travail, de bâtir avec eux des exercices qui vont permettre à un moment donné, donc par analogie au poste de travail, de déterminer donc si vous voulez les habiletés. Voilà, au poste de travail. Donc on met de côté l'expérience, la formation, voilà, tout ça on le met de côté, puisque les habiletés, ça peut se développer, y compris dans son domaine personnel, au travers d'activités hors professionnelles, sportives, extrasportives, culturelles, sociales, enfin peu importe. Chaque personne a des habiletés naturellement. L'idée, c'est d'arriver à les détecter et de voir si ces habiletés, effectivement, donc, peuvent être transposables sur le métier et plus précisément le poste de travail. Donc on va vraiment très fin. Et je dois dire que cet outil est vraiment un outil extraordinaire pour lutter contre les discriminations à l'embauche, notamment celles-ci, celles liées au handicap, entre autres, puisqu'on l'utilise régulièrement avec un certain nombre d'entreprises pour recruter leurs personnes, notamment lorsqu'il y a des personnes handicapées. Voilà. Donc c'est une méthode qui a fait ses preuves. Elle a aussi un grand intérêt pour l'employeur, c'est que, outre le fait qu'elle permet l'intégration donc dans l'entreprise au travers du handicap, elle sécurise aussi les recrutements, puisque les entreprises qui utilisent la méthode, bon, quelles que soient les personnes recrutées, s'aperçoivent in fine que le turnover baisse, puisque les personnes qui sont recrutées par ce moyen-là, elles sont quand même assez réceptives et assez fières d'avoir effectivement franchi des barrières qu'elles n'auraient pas pu passer autrement. Et lorsqu'elles sont en poste, elles sont plutôt fidèles à l'entreprise. Donc c'est aussi un constat que l'on a fait vis-à-vis des employeurs. Voilà, donc ça c'est la partie donc sur ce qu'on appelle les prestations. Ensuite, nous avons une palette de mesures et d'aides et de mesures donc qui facilitent là le recrutement, donc qui sont des aides directes à l'embauche, notamment des aides à la mobilité. Bon, on a par exemple des aides au déplacement, des aides à la double résidence lorsque la personne est obligée de déménager pour aller chercher un emploi, des aides au déménagement directement, alors sous certaines conditions bien évidemment, et puis dans quelques cas on peut aussi aider la personne donc lorsque ça se justifie vraiment par rapport à l'obtention, enfin par rapport à l'emploi, donc on peut également financer le permis de conduire, voilà, dans des cas qui sont particuliers, voilà. Nous avons également des aides à la formation, puisque Pôle emploi, donc depuis sa création, donc depuis 2009, est devenu donc acheteur de formation. Donc après la région, nous sommes le deuxième financeur de formation. Et nous avons donc nous avons nos propres formations que nous finançons. Nous collaborons aussi activement avec la région. Nous aidons donc et nous cofinançons des actions de formation avec la région, notamment sur la partie sanitaire et sociale. Et lorsque la personne rentre en formation, Pôle emploi, donc sur les formations qu'elle a achetées, contribue à tout ce qui est frais annexes. Donc là aussi, s'il y a besoin donc des aides au logement, des aides à la restauration et des aides au transport liées à la formation. Donc une palette d'aides assez complète, mais effectivement que un certain nombre de demandeurs d'emploi ne connaissent pas. Donc c'est aussi la raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec les Cap Emploi qui peuvent donc mobiliser notre offre de service, hein, à part l'accompagnement, puisqu'ils réalisent pour notre compte de l'accompagnement, ils peuvent mobiliser toute cette offre de service. Et donc à Pôle emploi, c'est comment aussi informer, même si on sait que l'information elle est en libre service, notamment sur pôle-emploi.fr. Mais bon, voilà, donc c'est toujours compliqué puisque il y a beaucoup trop d'informations aujourd'hui. Et comment arriver à trier et avoir la bonne information au bon moment par rapport à mon projet professionnel. Sur la partie employeur, donc nous avons trois niveaux de service, l'accès direct, l'appui conseil et l'ingénierie. Et en fonction de ces niveaux, nous avons quatre services qui vont donc là aussi qui couvrent tout le spectre du recrutement, depuis la définition des besoins jusqu'à l'accompagnement par l'emploi. Et en fonction donc de là où se situe l'entreprise et là où elle fait appel à nous, nous intervenons donc sur les trois niveaux de service avec des services qui sont complètement adaptés à ce que demande l'entreprise, puisqu'on a une offre de service qui est entre guillemets cousu main en fonction des besoins de l'entreprise. Voilà. Donc c'est vrai que si c'est un accès direct, eh bien l'entreprise, ce qu'elle fait souvent, va se servir de Pôle emploi et de sa puissance de feu, puisqu'on est un réseau national avec plus de à peu près 1800 points d'implantation. Simplement se servir de nous pour déposer une offre d'emploi et pour la mettre à l'affichage, comme elle utiliserait n'importe quel média. L'intérêt, simplement, c'est que on peut avoir accès à nos offres, quel que soit le point d'implantation en France et même dans le monde. Donc ça facilite aussi l'information et l'accès à l'information sur les offres d'emploi. Et on peut aller donc jusqu'à un appui relativement important pour certains employeurs, donc sur la mise en œuvre de forums, la mise en œuvre de la méthode de recrutement par simulation, puisque bon, il faut quand même un certain nombre de recrutements pour la mettre en œuvre, donc on peut pas faire ça au cas par cas. Alors cette offre de service, donc c'est l'offre de service de droit commun. Et effectivement, comment on l'articule ensuite avec l'offre de service spécifique? Alors le principe, si vous voulez, que l'on met en œuvre donc avec la GFIP, le FIP et les Cap Emploi, c'est que lorsque une personne handicapée donc est suivie notamment par les Cap Emploi, le principe c'est d'abord le droit commun. Voilà, donc on essaye de voir dans notre offre de service quel est le service donc que la personne peut avoir. Et si à ce moment-là donc ce n'est pas possible, on oriente à ce moment-là sur l'offre de service spécifique. Donc ça, c'est le travail des conseillers au quotidien. C'est là donc où on mobilise l'offre de service du Cap Emploi, où on peut aussi mobiliser donc un certain nombre de mesures ou d'aides qui peuvent exister. Donc bon, notamment sur des actions qui peuvent être mises en place localement. Donc c'est tout ce travail, et c'est là où effectivement il y a nécessité chez nous de développer l'expertise des conseillers référents TA chez nous pour bien connaître cette offre de service en dehors de celle qui est proposée par les Cap Emploi et l'offre de service donc qui est financée par la GFIP et le FIP.
Et quand on est dans l'urgence, comme le précisait Daniel sur le cas qu'elle a évoqué tout à l'heure, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des services qui sont mis en place de façon particulière pour les personnes ou
Alors, j'ai bien entendu, j'ai bien noté, et sur la région, c'est clair qu'on n'a pas de réponse. Si on était en région parisienne, je vous dirais que la réponse, elle est trouvée, puisqu'on a une agence spécialisée. Ça fait partie d'ailleurs des réflexions aujourd'hui au niveau national. On a une agence donc à Paris qui est une agence handicap. Voilà, donc qui est connu, qui existe depuis des années, et qui a donc là des moyens. La question aujourd'hui, en tout cas la réflexion au niveau de la direction générale qui se pose, c'est de voir effectivement est-ce que dans les grosses agglomérations, donc Marseille en est une, effectivement, est-ce qu'il y aurait matière éventuellement donc à développer ce type de service. Alors, je ne pense pas qu'on aille, puisque bon, même si on est la deuxième île de France par rapport à Paris, donc on n'a pas du tout les mêmes problèmes, ou à l'île de France, pour autant, donc il y a un certain nombre de personnes chez nous donc inscrites, comme je disais, en tant que demandeurs d'emploi handicapés. Marseille concentre bien évidemment la plus grosse population. Donc l'idée, c'est peut-être de voir, nous avons mis en place dans notre nouveau schéma d'organisation ce qu'on appelle des agences, des A2S, agences de services spécialisés. Vous retrouvez là-dedans, par exemple, notamment les plateformes de vocation qui mettent en œuvre la méthode de recrutement par simulation. Nous avons les équipes emploi insertion et on pourrait imaginer effectivement que sur les A2S de Marseille, il y en a deux, peut-être qu'il y aurait matière à trouver là, donc peut-être une équipe un peu plus spécialisée. Donc ça fait partie des pistes de réflexion. Voilà. Mais c'est vrai que si aujourd'hui on a une personne qui vient nous voir, pour qui on trouve une offre d'emploi et dont le rendez-vous est à 2 jours ou 3 jours, c'est clair que si le problème se pose d'un interprète, aujourd'hui, nous, on n'a pas de réponse, en tout cas en interne. Et donc, l'idée, c'est comment mieux travailler justement avec le monde du handicap, que l'on connaît mal finalement, outre les Cap Emploi, et comment mobiliser effectivement les services qui peuvent être mobilisés, notamment sur des urgences de cette nature. Voilà.
D'accord. Merci. Je vais me tourner maintenant vers Jean-François de Caffarelli, qui est le directeur du FIPHFP, donc le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc vous êtes ce qu'on appelle un financeur, on va dire, du droit spécifique. Donc quelle est la réponse, quelles sont les réponses que peut apporter le FIPHFP en la matière et comment peut-on vous mobiliser?
Bien, vaste question. Peut-être un petit rappel. Donc le FIPHFP donc a été créé par la loi de 2005 pour mettre en place des politiques d'insertion et de maintien dans le cadre d'un système un peu contraignant, pour les trois fonctions publiques. Je vous rappelle que si la loi de 1987 avait créé la GFIP, donc un système propre au secteur privé, jusqu'en 2005, il n'y avait pas de système de contribution, notamment pour les employeurs publics qui ne respectaient pas le chiffre de 6% d'emploi. Donc, c'est ce qui a été mis en place avec le FIPHFP, et donc depuis 2006, puisque le fonds a été créé en 2006, nous agissons pour développer à la fois l'embauche et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, donc aussi bien les services de l'État, les collectivités territoriales et le secteur hospitalier public. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? La philosophie de notre comité national, qui est notre conseil d'administration, et Sophie Bédon-Crabette le sait bien, puisqu'elle y a participé pendant toute la première partie de la mise en place du fonds. Chez nous, le mot d'ordre, c'est la banalisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que toute notre action est destinée à faire en sorte que les responsables des ressources humaines, pour faire court, mais pas seulement eux, au sein des employeurs publics, s'emparent du sujet de l'emploi des personnes handicapées comme de tout autre aspect de l'emploi au sein de ces organismes. Ils s'occupent de la paye, ils s'occupent de la formation, ils s'occupent de tous les volets. Ce que nous efforçons de faire, c'est de donner les moyens à ces employeurs publics. Alors, ça va depuis les élus lorsqu'on est dans une commune, et monsieur le rappelait tout à l'heure, à la direction générale, au service des ressources humaines, et puis à la mobilisation de tous les services pour faire en sorte que cette préoccupation de l'emploi des personnes handicapées soit vraiment prise en compte au sein des employeurs publics. Ça, c'est le première façon de banaliser cette question. La deuxième façon de le banaliser, c'est sans doute de persuader les employeurs publics qu'en réalité, on ne leur demande pas d'employer des personnes handicapées. Alors, mon propos peut vous paraître un petit peu paradoxal. En fait, ce que nous demandons aux employeurs publics, c'est d'embaucher des personnes compétentes, même si elles sont par ailleurs affligées d'un handicap qui pourrait, dans l'absolu et en première analyse, constituer un obstacle à l'emploi. Alors qu'en réalité, vraisemblablement, des moyens existent pour compenser ce handicap et faire en sorte que les compétences de ces personnes s'expriment comme les compétences de tout un chacun au sein d'un employeur. Voilà. Alors, voilà le principe. Comment est-ce qu'on s'y prend de façon concrète? Bon, nous disposons d'un certain nombre de moyens, puisque maintenant, les employeurs publics qui ne respectent pas l'obligation de 6% acquitte une contribution au fonds. Nous avons collecté en 2011 188 millions d'euros auprès des employeurs des trois fonctions publiques. Et nous utilisons ces moyens par trois canaux principaux, mais on pourra détailler éventuellement par la suite s'il y a des questions. D'une part, des aides ponctuelles, c'est-à-dire que tout employeur, quel qu'il soit, public, quel qu'il soit, qui est confronté à un problème d'adaptation de poste, de maintien dans l'emploi, de mise en place d'un écran braille, de transport adapté pour une personne, etc., peut solliciter le fonds par le biais d'une plateforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, il y a possibilité de solliciter le fonds de façon immédiate, si je puis dire. Nous avons un deuxième moyen d'action qui est dirigé plus spécifiquement vers les employeurs publics les plus importants en taille. Et avec eux, nous passons des conventions. C'est-à-dire que nous travaillons avec eux pour qu'ils mettent en place un programme d'action sur 3 ans, une véritable politique d'emploi et de maintien des personnes handicapées avec des objectifs. Et au vu de ce programme d'action et de ses objectifs, nous mettons en place des financements qui sont adaptés à leur projet. Aujourd'hui, les 250 plus gros employeurs publics de France et de Navarre ont passé une convention avec le FIPHFP, ce qui couvre à peu près 65% des effectifs de la fonction publique. Donc voilà, ces employeurs-là ont on leur a délégué en quelque sorte des moyens pour qu'ils puissent au jour le jour et en continu mettre en place les actions dont ils ont besoin au sein de, leur, de leurs effectifs. Le dernier canal par lequel nous agissons, ce sont des partenariats, puisque le FIPHFP, comme l'a rappelé Sophie Bédon-Crabette, est d'abord avant tout un financeur, qu'il est une structure légère et qu'il n'a pas les moyens lui-même, j'allais dire, de tout faire, si je puis dire. Et puis d'ailleurs, il y a des partenaires qui ont des moyens d'action et que nous essayons de mettre en œuvre. Alors, il y a bien entendu le fonds frère ou sœur qu'est la GFIP, avec lesquels nous travaillons sur différents sujets, comme le cofinancement des Cap Emploi, la formation, l'action. Alors, également dans ce cadre-là, monsieur l'a rappelé tout à l'heure, nous travaillons également avec Pôle Emploi et nous mettons en œuvre conjointement des moyens pour que, j'allais dire, la situation particulière des personnes handicapées puisse être prise en compte et qu'il y ait des moyens d'appui pour les organismes qui les traitent. Nous avons également, dans le secteur des collectivités territoriales, des partenariats avec les centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui sont en quelque sorte les directions des ressources humaines des employeurs de petite taille, pour simplifier. Et nous avons des partenaires divers et variés. J'ai vu tout à l'heure dans le hall un stand d'Andeco, par exemple. Andeco, nous travaillons avec eux et nous participons au financement de leur système de plateforme pour la gestion des appels d'offres pour les employeurs qui ont recours au secteur adapté. Voilà nos modes d'action. Alors, nous avons aujourd'hui un certain nombre d'accents particuliers sur des sujets qui nous paraissent particulièrement importants. L'apprentissage, le thème de cette réunion est la formation et l'adaptation au métier. Donc, nous pensons que l'apprentissage est, pour un bon nombre de personnes handicapées, un bon moyen de pénétrer dans l'emploi. Et nous avons mis en place toute une série de dispositifs particuliers, avec notamment une action spécifique en matière d'accompagnement, pour faire en sorte que, effectivement, lorsqu'il y a des difficultés particulières, à la fois chez l'employeur ou dans le courant de la partie formation de l'apprentissage, la personne puisse être appuyée. Donc, pour y revenir, si vous avez des questions là-dessus. L'accessibilité, c'est effectivement un préalable à l'emploi des personnes handicapées. Vous savez que lors de la dernière conférence nationale de handicap, il a été acté que le FIPHFP renforcerait son action dans ce domaine. Alors, aussi bien en ce qui concerne l'accessibilité physique des employeurs. Alors, je le dis toujours quand il y a notamment des élus locaux dans la salle, nous ne nous occupons pas de l'accessibilité au public, parce que ça, c'est pas notre vocation, et puis nos fonds n'y suffiraient pas de toute façon. Nous consacrons à l'accessibilité de l'environnement professionnel, ce qui est déjà important et ce qui correspond bien à notre vocation. Alors, dans cette accessibilité, peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure, il y a un sujet particulier qui est l'accessibilité numérique et qui, je pense, peut vous intéresser particulièrement, puisque là-dessus, nous allons travailler sur notamment l'accessibilité de tous les outils informatiques qui sont utilisés qui aujourd'hui ne sont pas toujours adaptés, notamment aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. Bon, on pourra y revenir. Nous avons également développé plus récemment une action spécifique en direction des médecins du travail, dans la fonction publique en tout cas, mais c'est vrai aussi dans le privé. Les médecins du travail jouent un rôle extrêmement important dans la définition de qui peut occuper un poste ou pas. Et j'allais dire, il nous est apparu que ils n'avaient pas toujours, et c'est pas leur faire injure que de le dire, ils le reconnaissent eux-mêmes, en matière de handicap, ils n'ont pas toujours toutes les clés. Voilà, et donc nous développons des actions au niveau de chaque région pour réunir les médecins du travail et leur donner des outils pour appréhender la question du handicap. Voilà les principaux aspects de notre action. Je voudrais terminer juste en citant deux chiffres. En 2007, qui était la première année de fonctionnement plein du FIPHFP, alors à l'époque, on se faisait beaucoup attrapé, pour employer un terme châtié, parce qu'on trouvait qu'on ne payait pas beaucoup par rapport aux fonds qu'on recevait. Effectivement, en 2007, nous n'avions payé que 7 millions d'euros d'aide, ce qui effectivement était très peu par rapport au montant de ressources que nous avions pu collecter au cours de cette première année. Alors, depuis, on s'est soigné et on a beaucoup travaillé. En 2011, nous mettrons en œuvre vraisemblablement 120 millions d'euros de paiement. Donc, vous voyez que nous avons changé d'échelle en 4 ans. Un autre chiffre en termes d'évolution des recrutements de personnes handicapées par les fonctions publiques. Alors, en 2008, les employeurs publics recrutaient un peu moins de 6500 personnes. En 2010, c'est le dernier chiffre qu'on connaît, les recrutements opérés par les employeurs qui sont contributeurs au fonds ont représenté 15 000 personnes. Vous voyez que nous avons là aussi changé d'échelle, même si, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire et évidemment ce chiffre ne peut pas constituer pour nous un moyen de dire tout va bien et nous avons fait notre boulot, il reste encore beaucoup de choses à faire.
Justement, par rapport à cela, est-ce que vous avez des informations? On entend partout qu'un fonctionnaire sur deux ne sera pas remplacé. Et du coup, quel effet ça et quel impact ça va avoir sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique?
Alors, il est évident que la politique d'emploi des personnes handicapées, mais c'est pas vrai uniquement dans le secteur public, c'est vrai aussi dans le secteur privé, est évidemment, on n'est pas une politique comme ça en l'air qui est complètement déconnectée de tout le reste de la réalité économique, etc. Alors, il est clair que les règles en matière d'évolution de recrutement dans la fonction publique, bon, elles sont ce qu'elles sont et elles s'appliquent bien entendu à tout le monde. Ce que l'on peut dire, malgré tout, c'est que c'est pas parce que... Alors d'abord, la règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, elle vaut pour l'État à ce stade. Pour les collectivités, c'est en tout cas moins général et il n'y a pas de mot d'ordre général sur ce plan. Par ailleurs, c'est pas parce qu'il y a un non-remplacement qu'il n'y a pas du turnover. Et ça veut dire que malgré tout, des recrutements au sein des employeurs publics, il y en a en permanence, notamment parce que la pyramide des âges, et de ce point de vue, d'ailleurs, la situation des fonctions publiques, notamment des fonctions publiques locales, fait qu'on arrive à un moment où des générations assez nombreuses vont partir à la retraite, si vous voulez, et donc, malgré tout, il y aura un flux de remplacement, etc. Donc, de ce point de vue, le fait que le FIPHFP existe seulement depuis quelques années fait que la préoccupation d'atteindre le 6% est quand même, me semble-t-il, bon, la prise de conscience a bien été faite, un peu forcé contraint à cause de la contribution. Voilà, donc je pense que malgré tout, c'est pas parce que effectivement la dynamique d'emploi dans la fonction publique, dans les trois fonctions publiques, est moins grande qu'avant, que rien ne pourra se passer au niveau du recrutement des personnes handicapées, encore une fois, parce qu'il va y avoir du renouvellement. Et parce que l'apparition récente, finalement, de la contrainte du 6% et de la contribution fait que, on tombe aussi à un moment où la sensibilisation des employeurs publics se fait malgré tout. Et voilà. Alors, vous dire que ce sera aussi facile que si on était en période faste, non, sûrement pas. Mais malgré tout, on a suffisamment d'atouts dans notre jeu pour considérer qu'il ne faut pas jeter le manche avec la cognée, quoi.
D'accord. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Allard, donc qui est chef d'entreprise et qui va porter un regard un petit peu sur les financements, la façon dont les entreprises aussi se positionnent. On entend beaucoup dire ces derniers temps que les entreprises sont devenues vertueuses parce que les contributions de la GFIP baissent. Je tenais quand même à faire un petit rappel. Il y a quand même une forte part des contributions de la GFIP qui ont été ponctionnées, notamment par l'État, des transferts de charges sur la reconnaissance de la lourdeur du handicap, sur la formation de l'AFPA, etc., qui font qu'en fait, ce sont des baisses mécaniques qui donc génèrent moins de moyens pour répondre au droit à la compensation et à l'accessibilité des travailleurs handicapés à l'emploi, et que même si certaines entreprises effectivement ont fait de gros progrès ces derniers temps, la baisse des financements n'est malheureusement pas due qu'au fait que les entreprises soient devenues vertueuses en matière d'emploi des personnes handicapées. Donc je vous laisse la parole.
Oui. Écoutez, on dit que l'économie est cynique. Oui, on dit que l'économie est cynique. Je vais essayer de faire une analyse un petit peu cynique de la situation. Mais en fait, la table ronde me donne prétexte à rebond multiple. Donc, ça va être très intéressant. D'une part, c'est tout à fait intéressant. Je dirais que le thème de ce congrès, c'est faire du droit à la formation au travail une réalité. Mais en même temps, quand on examine un petit peu ce qui se passe, effectivement, c'est plein de paradoxes, c'est plein, il y a plein de bon sens, il y a plein de créativité, il y a plein de dynamisme, il y a plein. Et je reprendrai un propos tout à l'heure qu'on échangeait avec Monsieur De Caffarelli et Monsieur Giaussi d'Aix-en-Provence au sujet des intouchables. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est un petit peu l'impression que ça donne. Tout à l'heure, on reparlera des mairesses. J'ai des sujets qui vont être assez intéressants. Mais si on prend effectivement le financement, on va effectivement parler, et vous me le rappellerez si je l'oublie, de l'attitude des entreprises face à l'acte d'emploi. Je vais prendre un point déjà simplement d'analyse du système qui se veut, enfin pour moi, mon analyse schizophrénique, d'une part, et puis d'autre part, en fait, inégalitaire. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, vous avez effectivement une courbe d'emploi qui, bon, aurait tendance quand même si elle se stabilise, voire elle régresse, elle a tendance quand même, l'emploi de personnes handicapées, à augmenter. Donc le paradoxe, c'est ce que j'appelle un peu la schizophrénie du système, c'est que dans ces conditions-là, les contributions, elles, descendent. Mais, et là, on va finir en fait le schéma, c'est que les besoins, malgré tout, pour le maintien en emploi, eux, vont augmenter. Donc en fait, il va vraiment se poser la question du financement. Et d'ailleurs, si je fais un petit tour hier entre l'introduction du président Bonnet, l'intervention de Maurice Beccari dans les ateliers et tables rondes, le problème du financement en fait est omniprésent dans les propos de tout le monde. Hein, on s'aperçoit que comment on finance ci, comment on finance ça, on fait appel à tel dispositif qui disparaît. On parlait hier, je ne sais plus qui, de la 2EH par exemple, qui est effectivement une subvention destinée aux étudiants, tout d'un coup qui disparaît. Donc est-ce qu'il y a un vrai besoin, est-ce qu'il n'y a pas un besoin, est-ce qu'on a les moyens de satisfaire, pas les moyens de satisfaire, est-ce que c'est une vraie utilité, est-ce que ça n'a pas une véritable utilité. Il y a tout un tas de questions quand même qui se posent, et il n'y a pas, me semble-t-il, en fait, une réflexion de fond, de coordination sur l'intégralité en fait de ces sujets. Donc ce que je vais essayer d'aborder un petit peu rapidement, n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez quand même que je rentre dans le détail. Donc un système schizophrénique, c'est celui que j'appelle, qui est en même temps inégalitaire quand même. Hein. On n'est pas dans un système d'équité, on va le voir tout à l'heure, aussi bien sur les acteurs de l'emploi, ça c'est une chose, mais également pour les personnes handicapées. Parce que si vous êtes handicapé avec un métier X, une compétence X, et un handicap Y, et que vous relevez d'une grande entreprise, globalement, vous serez quand même assez chanceux. Paradoxalement, si vous avez le même métier, le même handicap, et puis que vous relevez d'un dispositif qui est l'OETH, là, vous risquez d'avoir quand même beaucoup moins de chances en termes de moyens de prise en charge. Donc, en fait, on a des dispositifs aujourd'hui qui créent carrément une inégalité de traitement des personnes handicapées en fonction de leur secteur de rattachement. Et à la limite, on peut faire presque des fois des classements. Faut connaître que le FIPHFP est plutôt bon élève dans ce dispositif, mais c'est pas nécessairement le cas tout le monde. Et on se retrouve avec notamment des PME, des TPE. Des TPE, je rappelle quand même que l'entreprise, c'est 80% à au moins 80% de PME, TPE. Donc l'emploi est bien évidemment dans ces établissements. Qu'ils ont besoin effectivement malgré tout d'être accompagnés, puisque le handicap leur fait peur quand même, hein, faut pas l'oublier, quand on est 20 et qu'on recrute une personne handicapée, ça a comme impact quand même 5% des effectifs. Alors quand on parle d'une grande entreprise et qu'on parle de 6%, mais c'est 6%, c'est X fois un pouillème de pourcent qui va conduire à 6%. On va dire que globalement l'impact est quand même pas le même, on a le droit de se tromper sur effectivement certains recrutements. Par contre, dans une PME, l'impact est beaucoup plus sensible. Donc il faut penser aussi un peu à l'autre, c'est ce que je dis souvent, il faut penser un petit peu à l'autre, et l'autre c'est celui qui c'est celui qui signe le chèque, hein, c'est le cynique, c'est celui qui recrute, il veut des compétences, mais en même temps il n'y a pas tellement droit à l'erreur. Et il faut savoir aussi répondre en fait aux besoins de l'autre dans le dispositif de l'acte d'accompagnement en fait à l'emploi. Donc je parlais d'un système un petit peu inégalitaire pour les personnes handicapées en fonction de leur secteur de rattachement, mais on peut aussi le compléter par un autre point qui est une inéquité des acteurs de l'emploi. Aujourd'hui on a ce schéma là en fait, les employeurs ont une obligation de flécher 6% de leur recrutement à destination des personnes handicapées. Bon. Tout à l'heure j'entendais, et d'ailleurs le président Faure pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées le disait, monsieur De Caffarelli le rappelait tout à l'heure, les fonds de gestion utilisent leurs fonds, notamment sur l'acte de formation. Et moi je suis chef d'entreprise, Et puis, quand je regarde mes contributions diverses et variées, ben, j'en ai sur la formation, j'en ai sur l'accès à l'emploi. Et puis tout d'un coup, si je contribue, en fait, parce que j'ai, pour une raison ou pour une autre, pas mes effectifs de personnes handicapées, on va utiliser ma contribution également pour la formation des personnes handicapées. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends plus vraiment, parce que comme je contribue déjà, c'est une double punition. Est-ce que c'est pas non plus pour se substituer, en fait, à nos institutions qui n'ont pas su accompagner nos concitoyens, en fait, handicapés dans leur cursus normal de formation ? Le déficit chronique de compétences et de qualifications des personnes handicapées, on peut peut-être mettre en cause effectivement nos systèmes en fait un peu en général. Alors à quelques-uns on réfléchit, on n'est pas nécessairement constitué, même si je suis membre d'une organisation patronale, on se dit que si effectivement on se disait que les moyens de la formation étaient fléchés, mais de façon obligatoire, comme les employeurs, sur la formation des personnes handicapées. Si, bien évidemment, on retrouvait le fléchage des 6% pour les employeurs, mais que de surcroît, on disait que Pôle emploi et les acteurs de l'accès à l'emploi flèchent de façon automatique 6% de leurs moyens sur l'emploi des personnes handicapées, on aurait effectivement un emploi qui serait un peu plus, peut-être gros, un peu plus dynamique, qui est peut-être un peu plus concerné. Et je vais vous faire... Je vous raconterai une expérience vécue. J'ai lancé en avril un partenariat avec le Conseil général du Jura, le Conseil régional, la DIREC, la préfecture, Pôle emploi, pour lancer un recrutement de 20 transcripteurs, les gens qui font le travail qui sont derrière moi. C'est un nouveau métier. Alors, nouveau métier, il a comme paradoxe, comme c'est un nouveau métier, il n'y a pas de référentiel. Comme il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de dispositif de financement. Voilà. Donc c'est aussi un des paradoxes qu'il faut savoir combler, mais ça on ne sait pas le faire. Notamment, on souhaite avec un partenariat avec la FISAF de créer un module de formation à destination des personnes malvoyantes et aveugles, parce qu'on estime que là on aura peut-être une performance plus importante que des voyants. On n'a pas trouvé de dispositif de financement. On n'a pas. On ne peut pas le faire. Donc il va falloir qu'on sollicite peut-être des entreprises pour financer en fait cette expérimentation. On est dans des paradoxes, c'est-à-dire qu'on peut créer l'emploi, on peut créer la richesse, mais en même temps, on a un système qui veut faire plein de choses, mais qui manque des fois crucialement de cohérence dans ses actions, et voire même de dispositifs qui permettent à l'innovation aussi d'exister. Ça, je pense que c'est un problème qu'on retrouve malgré tout assez couramment. Donc, si on fléchait effectivement 6% des moyens de chacun sur l'emploi, on aurait effectivement une dynamique qui serait, on peut l'imaginer, autre que celle que l'on a aujourd'hui. Donc, je vais raconter ma petite histoire. En avril dernier, donc avec le Conseil régional du Jura, et conseil général, encore une fois, Pôle emploi, etc., je leur dis, je veux créer une plateforme de transcripteurs de 20 personnes dans un village de 90 habitants, c'est celui-là. Bon, j'ai besoin de la fibre optique, et puis j'ai besoin de financer ces formations donc pendant 2 ans, hein, puisque c'est 2 ans minimum de formation. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour effectivement faciliter cette implantation ? En 4 mois... Ils ont trouvé un budget à peu près 1,5 million d'euros pour 2 ans, c'est-à-dire salaire, charges, coûts pédagogiques. Le conseil général amène la fibre optique, tout le monde est ravi, ça marche très bien. Et entre avril et novembre, je laisse faire. On a utilisé les MRS, je reviendrai dessus, hein, méthode de recrutement par simulation, plus des environnements de test que l'on a créés pour effectivement permettre à ces personnes qui vont suivre une formation de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc on est vraiment dans le cas concret. Eh bien, entre avril et novembre, à aucun moment, personne n'a abordé le sujet de notre politique en faveur des TH. Simple. Le conseil est simple. Non pas qu'on ait eu affaire à des gens pas motivés, au contraire, des gens vraiment compétents, dynamiques, engagés, efficaces. Simplement, le constat qu'on fait, c'est que chez Pôle emploi ou Conseil général, Conseil régional et ailleurs, c'est pas un réflexe inné. Si on n'a pas un indicateur, et si les entreprises n'ont pas, ou les employeurs en général n'ont pas un indicateur de 6% avec une contribution, on peut considérer effectivement que la motivation ne sera peut-être pas nécessairement toujours au rendez-vous. Et en l'occurrence, là, on s'aperçoit que ça n'a pas été le cas. Effectivement, il y a 260 profils qui nous avaient été présentés. Sur les 260, il y en a une centaine qui pouvaient prétendre à passer les tests. On a fait des informations collectives. Il y en a eu 60 qui sont présentés aux informations, aux tests MRS. On en a retenu 20, et pendant toute la période, À aucun moment, le sujet des TH n'a été abordé. Cap Emploi n'a pas été fédéré. Enfin, aucun des acteurs autour de l'emploi ou concernés par l'emploi n'a été, des personnes handicapées bien évidemment, n'a été sollicité. Alors, jeter la pierre sur les entreprises, j'y participe, donc je répondrai à votre question. Mais en l'occurrence, on voit bien que le système, si effectivement il n'a pas des indicateurs forts, eh ben le réflexe n'est pas inné. On ne pense pas de façon systématique ou automatique, en fait, à la problématique des personnes handicapées. Donc ça, c'est par l'exemple que je voulais effectivement aborder ce sujet. Tout à l'heure, donc, on parlait donc, des mairesses, c'est pour ça que je suis survenu aussi, c'était un peu le clin d'œil, mais effectivement, système efficace qui demande malgré tout à être étalonné. Hein. On a travaillé donc avec la direction générale à Paris, on a travaillé longtemps pour le mettre en place, puisque nous, quand on lance des formations sur 2 ans, il faut que derrière on ait une certitude que les stagiaires vont maintenir hein, à la distance. Donc voilà des cas concrets que l'on retrouve et qui aujourd'hui démontrent un petit peu, si vous voulez, l'absence aussi de cohérence, encore une fois, de l'ensemble des différents acteurs à l'emploi. Donc les entreprises. Pour répondre à la question de la mobilisation, je pense que j'ai répondu un petit peu tout à l'heure en particulier. Les PME sont pas nécessairement, en situation d'aborder le handicap avec facilité, c'est tout à fait évident. Je crois qu'il faut s'occuper d'elles, régler leurs problèmes. Et si on règle leurs problèmes, je pense qu'on réglera le problème des personnes handicapées en même temps.
Enfin, il y a quand même des petits soucis, même lorsqu'elles sont dans l'emploi. Le rapport Bunel fait état de 200 000 inaptitudes prononcées chaque année, avec 60% de ces inaptitudes qui se terminent par un licenciement pour inaptitude. Donc est-ce que là, les entreprises n'ont pas justement un travail à faire? Parce que là, pour le coup, la personne, elle est déjà en emploi, mais elle n'y reste pas.
Oui, si vous voulez, toutes les tables rondes, les colloques... Sur les dernières années auxquelles j'ai pu assister, en fait, on fait une relation handicap et grands établissements.
Non, pas forcément.
Si, très souvent, ceux qui participent aux tables rondes, on retrouve ces de grands établissements, de grandes entreprises, Crédit Agricole, Société Générale, voilà, de grands acteurs, effectivement, de l'emploi, somme toute. Ceci étant, trouver, effectivement, un reclassement dans une grande entreprise est chose quand même plus aisée que quand vous avez une inaptitude, et j'en ai eu une dernièrement, une inaptitude, quand vous êtes 20, 25 ou 30, retrouver un reclassement intérieur de l'entreprise, c'est pas nécessairement très simple. Sachant que, et là, Monsieur De Caffarelli a abordé le sujet notamment de la sensibilisation des médecins du travail. Très clairement, il y a un gros travail à faire à ce sujet-là, mais là, pareil, pas de cohérence. Mais pas de cohérence, pas volontaire, encore une fois, hein, c'est simplement le système qui est comme ça. Monsieur De Caffarelli va engager effectivement une sensibilisation auprès des médecins du travail, puis tout d'un coup, on s'aperçoit en discutant avec les grandes entreprises qu'elles-mêmes vont se mobiliser pour essayer de se réunir pour effectivement sensibiliser les médecins du travail, et puis on va peut-être retrouver, j'en sais rien, d'autres acteurs encore qui vont faire pareil de leur côté. Alors peut-être qu'il y a à un moment donné, une convergence d'intérêts et donc du coup des moyens fédérés et permettant effectivement l'absence de dispersion, sachant que les moyens vont être de plus en plus rares. En l'occurrence, si on aborde des schémas comme cela, ça permettra peut-être à la GFIP ou FIPH et à l'OTH effectivement de se consacrer au maintien d'emploi et à la sensibilisation, effectivement, et de permettre aux acteurs de l'emploi, de Pôle emploi et de la formation de flécher 6% des moyens sur la formation et donc du coup faire des économies déjà sur les contributions qui rentrent.
Merci. Pour le conclure, Daniel, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce que vous êtes rassuré ou au contraire apeuré par tout ce que vous avez entendu?
Ni apeuré, ni rassuré. Moi, il y a eu plein de choses qui m'ont intéressée. En fait, il y a une réflexion qui n'est pas directement liée, mais quand même qui me vient à l'esprit. C'est qu'il y a une forte segmentation en fait de la personne handicapée. Elle a un volet social, elle a un volet professionnel avec son niveau de qualification, son expérience professionnelle, et puis un volet handicap. Voilà, comme si cette personne voilà était faite de plusieurs choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors que bon, les personnes comme nous tous, les personnes handicapées sont une seule personne, et que cette prise en charge globale, peut-être on la perd un petit peu de vue. On parle énormément de la compensation, donc c'est l'affaire du handicap. On nous demande à nous, services prestataires spécialisés, d'être des experts du handicap, et puis il y a les experts du placement, les experts de la formation. C'est un petit peu compliqué quand même de s'y retrouver au milieu de tout ça pour nous. Et puis pour la personne, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion de nouveau à mener quand même autour de ça? Alors, c'est peut-être très naïf de ma part de dire ça, mais je crois que à force de segmenter comme ça les choses, peut-être qu'on manque de liens finalement entre les dispositifs, entre les réflexions, que ce soit au niveau de l'entreprise ou que ce soit au niveau des organismes de placement. En Aquitaine, je le disais l'autre soir pour le club partenaire, le conseil régional a lancé un appel d'offres auquel on a répondu, qui nous a permis de lancer un projet qui s'appelle Prévention et lutte contre les discriminations. Il s'agit en fait sur certains secteurs d'activité de mettre en lien des DRH d'entreprises, des petites, des moyennes, des grosses, ça peut être des groupes, et puis nous en fait de les sensibiliser, ces acteurs de l'entreprise, au handicap de surdité, pour les inciter à recruter des personnes en contrat d'apprentissage. Donc les entreprises, et là je vous retrouve, effectivement extrêmement motivées, se disent, ben, c'est vrai qu'il y a un niveau de qualification qui pose problème. Donc on va former ces personnes à nos propres entreprises. Dans ces comités de pilotage de ce projet, hein, qui dure plusieurs mois, on invite les Cap Emploi. Et là, difficulté, effectivement, manque de mobilisation. Il y a un rouage là qui manque. Voilà. Et en fait, les entreprises, au bout du compte, se disent, mais les candidats au recrutement, au contrat d'apprentissage, où sont-ils? Comment fait-on? Et en fait, ce projet, qui à mon sens est quand même une petite mine d'or, ne fonctionne pas. Voilà. On tombe dans quelque chose qui finalement n'aboutit pas. On ne sait pas trop s'il y a des contrats d'apprentissage qui sont signés, mais on pense pas plus que ça. Alors le Conseil régional d'Aquitaine reconduit pour l'année 2012 encore cette action, donc on va voir comment ça va se dérouler. Voilà, donc je pense qu'il y a des petites initiatives comme ça au niveau local qui montrent bien que tout le monde a envie quand même de faire des choses, mais que ça n'aboutit pas forcément. Et du coup, moi, je me demandais si les services spécialisés, les prestataires, alors je vais parler en tout cas pour ceux de la FISAF, mais je pense que sur d'autres handicaps, j'en connais quelques-uns, c'est le même cas, on répond à des appels d'offres, le OTH, par exemple, donc il s'agit de bilan d'évolution professionnelle, de bilan de maintien dans l'emploi, on a une certaine capacité à intervenir sur le champ de l'accompagnement à l'emploi et dans le maintien dans l'emploi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, finalement, entre le Pôle emploi, le Cap emploi et les services prestataires, trop de strates, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur, effectivement, peut-être un dispositif plus simplifié, plus formé, plus sensibilisé au handicap? Voilà, c'est une réflexion qui me vient aujourd'hui.
Bon, c'est vrai que c'est difficile de mobiliser les personnes handicapées sur des contrats d'apprentissage parce que souvent il y a une problématique de salaire qui rend complexe le recrutement sur ce type de contrat. Monsieur Napoli, 6% de vos moyens affectés au handicap?
Je n'avais pas anticipé la question, donc je n'ai pas les chiffres. Mais ce qui est sûr, parce que je l'ai déjà mesuré, alors sur la formation, je ne sais pas, parce que c'est assez nouveau. Donc, hein, mais sur les prestations en général, donc chez nous en PACA, sur les demandes d'emploi donc inscrits chez nous, les personnes handicapées, grosso modo, c'est entre 8 et 9%. Les moyens qui sont consacrés aujourd'hui donc aux demandeurs d'emploi, les personnes handicapées sont au-delà de ce chiffre-là, régulièrement. Donc, ce qui veut dire que, tout simplement parce que c'est pas écrit là, et qu'on fait bénéficier nos services à tous les publics en fonction de nos problématiques, et on sait que la part des personnes handicapées dans nos mesures, dans nos aides, est supérieure. Donc, globalement, elle est prise en compte, mais pas dans une stratégie volontariste, un peu comme vous le disiez. Moi, je voudrais dire deux choses par rapport à ce que disait Monsieur Allard. Donc, vous avez parlé de la schizophrénie du système. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il faut dire aussi que nous-mêmes, nous sommes aussi dans un système qui est un peu schizophrénique. schizophrénique, puisque entre les politiques publiques, alors je vais résumer, pardonnez-moi l'expression, mais on nous demande de faire du jeune, du vieux, de la femme, du travailleur handicapé. Bien. Mais en même temps, donc, la HAL de hier et le défenseur du droit aujourd'hui nous interdit de diffuser d'emploi avec une mention réservée travailleur handicapé, vous le savez. Donc pour les conseillers, c'est un peu compliqué lorsqu'un employeur s'adresse à nous et nous demande de recruter dans le cadre d'une politique ou parce qu'il doit payer une contribution. Je veux des personnes handicapées. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec les Cap emploi. Bon, ceci dit, on le fait quand même. Et puis, deuxièmement, ce que je voulais dire aussi, je pense que vous avez posé une question intéressante tout à l'heure. Vous avez dit, grosso modo, la fonction publique, un fonctionnaire sur deux, donc voilà. Donc, mécaniquement, ça devrait entraîner, effectivement, voilà. Alors, mécaniquement, oui. Mais quand on pose cette question, je pense qu'en fait, enfin, c'est le système, encore une fois, et c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est parce qu'on réagit par rapport à des contraintes réglementaires. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est est-ce qu'il y a une politique d'intégration du handicap voilà, dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs. Voilà. C'est un problème que rencontrent, je pense, les entreprises en France et pour l'emploi en particulier. Donc c'est aussi la raison pour laquelle la direction générale vient de lancer un projet chez nous, un programme, pour faire de l'intégration du handicap un levier de l'identité de l'entreprise. Donc ça va commencer chez nous, donc ça va être la base de travail dans les prochaines relations sociales avec donc les représentants du personnel, mais l'idée de Pôle emploi, c'est au-delà de notre propre vision interne, c'est d'arriver à 3 ans, de pouvoir accompagner les entreprises sur ce volet-là. C'est le travail que nous faisons d'ailleurs avec Madame Amarenko chez nous en PACA, donc sur les fonctions publiques. C'est effectivement changer ce regard. Et à partir du moment où on travaille sur la compétence et que le handicap, à la limite, c'est un plus, mais qui vient après, on ne devrait plus se poser le problème. On ne devrait plus réfléchir à ça. Et de fait, on devrait naturellement, à ce moment-là, je pense, arriver mécaniquement à des 6% et bien plus si on travaille sur la compétence. Et c'est vrai que, bon, bien souvent, ce que nous, on constate, en tout cas chez nous, c'est qu'on vient nous chercher, et notamment des grandes entreprises. Et en gros, ils nous demandent « aidez-nous à recruter nos handicapés parce que ça finit par nous coûter cher ». Voilà. Alors, ils ne nous le disent pas comme ça, mais on le traduit comme ça. Et là, on est dans la réaction. Voilà, on n'est pas dans l'anticipation. Et c'est pas toujours évident parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas besoin de handicapés, ils ont besoin de compétences. Et c'est pas toujours facile à faire le lien entre les deux. Voilà ce que je voulais dire en complément.
Merci. Monsieur de Caffarelli, peut-être un mot sur ce qui a été souligné, le manque de cohérence dans les actions entre les partenaires.
Oui, je voulais réagir sur deux choses. D'abord sur le système schizophrénique auquel Monsieur Allard faisait allusion. Alors, je crois qu'en fait, il a donné la réponse à la fin de son intervention quand il a reconnu que le réflexe, j'allais dire, d'intégrer la dimension personne handicapée ou handicap n'était pas inné chez les uns et chez les autres. Alors, voilà, donc je crois que la clé, c'est bien ça. C'est-à-dire que si on a besoin de mettre en place un FIPHFP ou un AGFIP ou des Cap emploi, etc., c'est aussi parce que, j'allais dire, cette prise en compte banale du fait que le handicap n'est qu'un épiphénomène, en quelque sorte, par rapport au problème du recrutement, c'est aussi pour ça qu'on a besoin, d'organismes dont la tâche est d'injecter en permanence, le rappel de cette préoccupation avec des incitations. Parce qu'effectivement, la nature étant ce qu'elle est et l'économie étant ce qu'elle est, sans incitation, notamment financière, et sans appui technique, il y a peu de chances que ça progresse. Donc, ça, c'est le premier point auquel je voulais réagir. Alors, ça ne veut pas dire que je défends mordicus le système tel qu'il est. Je suis tout prêt à reconnaître qu'on a des tas d'améliorations à apporter, que le système doit pouvoir évoluer. Je ne suis pas arc-bouté sur mon truc, mais simplement, voilà, la justification de l'existence de ce genre de système, elle est quand même liée au fait que, voilà, tout ça n'est pas inné. Alors, sur la complexité, alors évidemment, c'est un trait commun de beaucoup de choses dont on s'occupe, notamment dès lors qu'on s'occupe de politique publique. La complexité, elle est peut-être dans les structures qui ont été mises en place par les différents textes, par le fait qu'il faut en permanence organiser des passerelles. Alors d'ailleurs, aussi bien dans la loi 2005 que dans la récente loi Paul Blanc, le législateur a essayé de redonner à l'État, si je puis dire, un rôle de concertation régionale, etc. Bon, il y a des nouvelles instances de concertation qui doivent se mettre en place, notamment sur les problèmes de formation, etc., pour que on réunisse les acteurs de au niveau de régional et essayer de d'organiser cette cohérence. Bon, c'est effectivement pas toujours facile. Je dois dire aussi, et c'est pas une provocation de, en s'adressant à des acteurs que vous êtes, la complexité, elle est aussi quelquefois entretenue par la multiplicité des partenaires auxquels on a affaire sur le terrain. Alors, loin de moi, évidemment, l'idée de remettre en cause l'extraordinaire quantité de compétences, de bonne volonté, d'implication des structures qui œuvrent sur le terrain auprès dans différentes structures. Mais c'est vrai que pour les financeurs ou les gens qui sont en charge de la cohérence des systèmes, on passe aussi beaucoup de temps, si je puis dire, à écouter les uns et les autres et à essayer de faire en sorte que chacun dépasse un petit peu son précaré pour rentrer dans des dispositifs globaux. Alors voilà, donc la complexité, on y participe tous. On n'a pas de baguette magique, si je puis dire, pour traiter les choses. Ce qu'on essaye dans le cadre de nos financements, et je pense que c'est vrai au niveau du FIP, de la GFIP, c'est de faire en sorte que quand on met en place un financement, on le fasse en échange entre guillemets d'engagement de coordination entre différents acteurs. Bon, c'est un peu ce qu'on fait dans le cadre des conventions qu'on passe avec le Pôle emploi, Cap emploi. C'est ce que nous faisons aussi dans les conventions que nous passons avec les centres de gestion, en leur disant vous devez, dans les conventions qu'on passe avec les Cap emploi, vous devez passer des conventions entre centres de gestion et Cap emploi, parce que vous avez des actions qui peuvent se recouper. Et dès lors qu'on vous finance l'un et l'autre, ce qu'on attend de vous, c'est que sur les sujets qui sont communs, les deux fassent pas tous les deux le même travail et que vous répartissiez les choses de façon intelligente. Alors, l'expérience montre que il y a quelquefois loin de la coupe aux lèvres.
Un petit mot très très vite pour laisser la parole à la salle, monsieur Allard.
Oui, non, moi je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'irai attention que le privé et que l'économie cynique rattrapent pas les bonnes actions entamées depuis des dizaines d'années. Et tout à l'heure, je voudrais juste rebondir sur l'accès notamment des personnes sourdes à Pôle emploi, Cap emploi, enfin, etc. Vous allez vite vous rendre compte que des acteurs de l'économie aujourd'hui qui trouvent que la population sourde est malgré tout une cible économique, et vont notamment les banques par exemple, qui vont rendre en fait un accueil accessible à des personnes sourdes. Donc on va se retrouver dans un paradoxe où l'économie va être plus accessible, même à la déficience auditive physique dans une agence, que le Pôle emploi ou Cap emploi à destination des personnes sourdes, puisque, comme vous le disiez très justement, pour avoir un interprète, il faut s'y prendre effectivement longtemps à l'avance. Donc ça, c'est un des paradoxes qui effectivement est là, né, et demain ça va être le cas, on va le voir. On va le voir qu'effectivement, l'économie pour faire du business va répondre à une problématique effectivement d'accessibilité, parce qu'elle est cynique, mais qu'effectivement elle a des objectifs à atteindre, il faut qu'elle se différencie. Et que de l'autre côté, vous œuvrez depuis des dizaines d'années sur, dans le bon sens, hein, encore une fois, il y a de la créativité, il y a de l'engagement, il y a du dynamisme, tous les superlatifs sont présents. Mais en même temps, il manque un petit quelque chose qui permette justement à tout ça de trouver, de faire en sorte que la mayonnaise prenne et soit peut-être plus efficace, alors qu'elle mériterait d'être plus efficace et plus visible quelque part, puisque vous, souvent tous les acteurs autour de l'emploi des personnes handicapées sont quand même un peu dans l'ombre du système quelque part. Hein. On dit souvent c'est un centre de coûts. Ce n'est pas un centre de coûts, c'est des centres de profit. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'il y a matière à avoir une réflexion peut-être un peu plus générale.
Merci à tous. Donc, s'il y a des questions. Il y a des questions ici.